Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce tout nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. Aujourd'hui, pas moins de deux coups de cœur ciné. Le premier consacré au film Sans pitié, avec toute une partie du casting qui sera présente. Julien Osmalin, le réalisateur, Adam Bessa, Jonathan Turnbull, Bérangère McNeez, Laura Sepul et Laïs Mayas. Ils seront tous là pour nous parler de ce film. Deuxième coup de cœur ciné consacré à l'affaire Bojarski. À cette occasion, Jean-Paul Salomé, le réalisateur, sera accompagné de son héros, Reda Kateb, qui sera notre invité exceptionnel. On va parler de l'arrivée de la série Le Diplôme, c'est ce soir sur TF1, c'est l'événement. La productrice Fanny Riedberger, le réalisateur Philippe Lefebvre, ainsi que la comédienne, une des comédiennes principales, Clémentine Sélarié, seront avec nous. Pour en parler, on évoquera aussi bien sûr le nouveau livre de Clémentine. Et puis dans nos coups de cœur télé, eh bien il y aura aussi Jean-Marc Généreux qui fait son retour dans Danse avec les stars très prochainement. Lui aussi a sorti un livre, Chaque pas est une leçon de danse. Il nous en parlera bien évidemment. Et puis en exclu podcast, Il était deux fois continue sur France 2. À cette occasion, Béatrice Facker va venir nous rendre visite aujourd'hui. Vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Alors on commence tout de suite avec notre premier coup de cœur ciné.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, en ce début d'année, eh bien c'est notre deuxième coup de cœur cinéma de l'année, en ce début janvier. C'est Sans pitié, ça sort ce 14 janvier dans les salles. Et on a la chance d'avoir avec nous justement toute une partie de l'équipe avec nous. Julien Osmalin, le réalisateur. Bonjour Julien, premier film, merci d'être là.
Merci beaucoup, c'est vraiment un honneur.
Un habitué de l'émission, Adam Bessa, qui est là. Bonjour Adam.
Bonjour.
Merci d'être de retour parmi nous après le prix du passage qui nous avait profondément marqué avec toi. Et puis on a Jonathan Turnbull qui joue aussi Gabriel dans le film. Bonjour Jonathan.
Bonjour.
Merci d'être là tous les trois. Sans pitié, c'est un film que j'ai eu la chance de voir il y a quelques mois maintenant au festival du film d'Angoulême, qui raconte une histoire difficile à la fois, qui est dans le monde forain. Comment est venue l'idée déjà pour commencer, Julien?
Bah, ça part d'une histoire personnelle, enfin, en tout cas l'arène du film est personnelle, familiale, parce que j'ai été élevé par un grand frère qui s'est marginalisé à l'âge de 15 ans en vivant dans une caravane, un peu loin de cette foule déchaînée, et on vivait face à une fête foraine. Et du coup à mon grand frère je lui disais, quand je voyais les manèges tout ça, je disais mais je comprends pas pourquoi nous on n'a pas de manège alors qu'on vit comme eux. Il me répondait simplement bah parce que nous on n'est pas comme eux. Et voilà, c'est tout naturellement quand j'ai eu envie de faire du cinéma et que j'ai eu la chance de faire ce premier film que j'ai voulu rendre hommage à mon grand frère qui a fait l'homme que je suis aujourd'hui.
Alors c'est vrai que c'est l'histoire d'une fratrie, hein, vraiment de deux frères, très proches étant petits. Le grand, évidemment ses premiers émois amoureux, va se faire charmer par une jeune fille qu'il va emmener en mobylette. Et puis évidemment il va laisser son petit frère rentrer tout seul à la maison. Et il va se passer des choses qui vont faire que son petit frère va revenir, que le lendemain va disparaître. Et 20 ans plus tard on retrouve en tout cas ces deux jeunes hommes. On part après vraiment un peu sur une expédition punitive et qui va nous faire comprendre un petit peu ce qui s'est passé 20 ans plus tôt. J'ai bien résumé ?
Exactement, ouais, c'est exactement ça. Ça parle justement de ces retrouvailles 20 ans plus tard de ces deux frères dans la vengeance, qui vont apprendre à s'aimer dans la vengeance. Mais ça parle aussi au début du film d'une mère seule, qui élève ses deux fils seuls et qui, entre le boulot, entre le quotidien, entre tout ça, va pas pouvoir être à la hauteur de tout ce qu'elle devrait être en tant que mère. Et je lui pardonne. Et la fin lui pardonne. Mais voilà, ça parle aussi ça de ces conditions de mère seule et qui fait tout ce qu'elle peut pour donner tout ce qu'elle a à ses enfants.
Et on va en parler avec Laura, justement. Laura Sépulcre qui va nous rejoindre dans quelques instants. On aura également Bérangère McNeese qui va nous rejoindre aussi, puisque quasiment toute l'équipe est avec nous. Adam, on va parler évidemment de Dario, qui est le petit garçon qui a vécu un drame en étant enfant et qui revient justement et qui va avoir ce déclic, qui va faire tout remonter à la surface. Comment t'as appréhendé ce rôle?
Beaucoup de discussions avec Julien. C'est vraiment une construction, je dirais, qui était vraiment très libre, puisque le film, il s'inscrit dans un genre, dans une fiction, donc on est un petit peu libéré, je dirais, des codes du réalisme, du film social, du film qui serait beaucoup plus ancré dans une réalité. Julien, il avait cette envie de faire un film au réalisme un peu magique, comme ça, un vrai décor à part, fictionnel, donc ça m'a donné une grande liberté par rapport à peut-être d'autres films, donc c'était un plaisir de préparer ça, de créer ça avec lui, de créer ça de toutes pièces. Ça a été des longs échanges pendant des mois sur les choix, sur comment représenter au mieux
cette fratrie en même temps. En compte avec Toufik.
Oh bah super, hein, avec Toufik ça s'est très bien passé. Franchement, sur ce film, tous les acteurs, enfin j'ai passé beaucoup de temps avec Jonathan Turnbull, avec Toufik et Bérangère, et je dois dire que j'ai été servi. J'avais des très 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 bons camarades de jeu, extrêmement professionnel, extrêmement déterminé à faire une proposition forte, des travailleurs, des bosseurs qui avaient envie de créer des personnages forts. Et je pense que ce film-là marchait, et ça je l'avais senti dès le début, si tout le monde était
dans le même sens.
Dans le même sens, dans le même niveau d'engagement et la volonté d'aller au même endroit. Et donc j'ai été ravi de travailler avec eux, et ça, je pense que ça s'est bien passé à ce niveau-là et que le film est réussi à ce niveau-là, en tout cas.
En tout cas, c'est très rythmé, et Julien, pour une première réalisation, bravo, parce que tout y est. Évidemment, on sent l'amour de cette fratrie, on sent l'amour de cette mère pour ses deux enfants. Il y a plein de sujets en filigrane aussi qui viennent parsemer le film. Jonathan, on va parler de Gabriel un petit peu quand même. Gabriel qui est le fils en fait du directeur des douanes, ouais. Qui est très proche du coup à la base de Ryan.
Et qui est, ouais, donc Gabriel, c'est un ami en gros de Ryan. Et ce qui m'a beaucoup plu, moi, dans mon personnage, c'est l'aspect un peu abyssal dans lequel il va tomber à un moment, une espèce d'incompréhension qui va s'emparer de lui. Et ça m'a posé.
Tu le joues vraiment, on a l'impression que le ciel te tombe sur la tête à un moment donné. On dira pas pourquoi, mais on a vraiment cette impression-là quand on te voit jouer.
Ouais, c'est ça qui m'a plu. C'est une espèce de, même les figures masculines de manière générale dans le film, c'est comme s'il y avait tout se casser la gueule. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de questions qui sont venues quand j'ai lu le scénario, et c'est ça qui m'a intéressé, quoi. Cette espèce de bug, des fois, qu'on peut avoir sur une situation qui arrive et qu'on n'arrive pas à gérer. On se dit, putain, merde. Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, bah déjà, j'étais super content de bosser avec Toufik et Adam, parce que j'aimais beaucoup leur boulot. Et la rencontre avec Julien, bah, pain béni, quoi, parce que c'est un gars qui fait confiance, et on a tous sauté dans les personnages presque aveuglément, quoi, sans se poser de questions. Et ça, c'était cool.
Qu'est-ce qui t'a tout de suite plu chez Adam et chez Toufik? Qu'est-ce que tu les avais remarqués dans d'autres films, Julien? En tout cas, pour incarner cette fratrie, c'est toujours difficile justement de trouver ces deux personnages qui vont incarner peut-être des personnages à qui tu peux rendre hommage aussi du coup à travers ce film.
Ouais, bien sûr. Non, en fait, oui, je connaissais leur travail évidemment. Bah, Adam, je l'avais vu dans Arca, Jonathan, je l'avais vu dans Sambre, Toufik, je l'avais vu dans Wissekin et dans d'autres films. Mais je sais pas, c'était un premier film. Moi, je suis c'est la première fois aussi que tout ça m'arrivait un peu. Et ce que je cherche chez mes comédiens et comédiennes, c'est ce côté viscéral, quoi. J'aime le côté animal des gens, j'aime le côté viscéral, j'aime leur violence intérieure. J'aime quand il y a la fureur dans les yeux, quand il y a tous ces paradoxes-là, toutes ces émotions-là qui transpercent un visage. J'adore le hors-champ, et voilà. Et ces gens-là, humainement, me bouleversent. Donc je savais que j'avais plus grand-chose à faire en arrivant sur le tournage pour rendre hommage, en tout cas, à ce qu'ils représentent en tant que personne. Et à travers leurs personnages. Donc c'est ce que je cherche, c'est de la viscéralité et des gens authentiques. Je pense que les gens verront qu'ils le sont. Voilà.
Ça t'a amené quelques difficultés justement techniques, par exemple, de filmer dans des endroits des fois exigus, comme une caravane par exemple?
Ouais, bah après ça a été très compliqué. Moi, avec mon chef opérateur Florian Solin, on a énormément préparé. Évidemment que l'idée de construire un faux décor de caravane nous est venue à l'idée, mais on s'est dit non, on va perdre l'authenticité. Puis moi, j'ai vécu dans une caravane, donc je sais... je savais à peu près comment on allait s'axer. Et puis, puis encore une fois, j'avais un chef opérateur absolument formidable et on a bossé sur les optiques. Ça a été technique, mais sincèrement, on voulait pas faire de construction studio, on voulait quelque chose de vrai.
Ah donc, quelle était la scène la plus difficile peut-être pour toi ?
La scène la plus difficile, je dirais, c'était peut-être la première finalement. La toute première, à l'arrivée en fait. C'était, je savais que la première pierre du puzzle allait tout me donner. La direction finale.
Dario fait son retour en fait.
Ouais, exactement. Donc en fait là, si l'énergie, si l'état, si toujours du stress de toute façon au premier jour hein, de tournage parce que
ça joue dans tout le regard des personnages aussi qui te regardent. On dira pas dans quelles circonstances, mais en fait t'arrives, tout le monde a les yeux rivés sur toi quoi.
Ouais voilà c'est ça. Et donc être au bon endroit, c'était quelque chose, c'était ça le challenge quoi, arriver à trouver le juste équilibre, le plus juste pour le film.
Jonathan, pour toi.
Je sais pas si j'ai une scène qui m'a fait plus peur qu'une autre, mais c'était plutôt un sentiment général d'avoir peur de pas être à la hauteur du propos qu'on défendait. Et ça, j'ai toujours gardé en tête tout au long du tournage pour essayer de rester le plus concentré possible, parce que c'est un sujet important, et donc c'est plutôt ça qui me faisait peur.
Alors, on pourrait penser, en ayant vous trois là, que c'est un film d'hommes. Eh ben non, c'est aussi un film de femmes, et on va les recevoir dans un instant, justement, pour parler de leurs personnages, puisque Sans Pitié sort mercredi au cinéma. C'est le premier film de Julien Osmalin qu'on vous invite à aller découvrir. Bon, moins de 10 ans, vous évitez d'emmener quand même les enfants, mais au-delà, vous pouvez, sans problème. On va écouter la bande-annonce, et puis on va revenir juste après avec les filles qu'on va essayer de récupérer. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Bonne année 2026, en espérant que tout se passe bien pour le film. Et puis Julien, dernière question, allez pour toi, comment on se sent là, deux jours de la sortie ?
Envie.
C'est très beau. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Tout de suite, la bande-annonce, on revient juste après.
Mes chers enfants, levons le verre pour Maria.
C'est qui ?
C'est le frère de Ryan.
10 ans sans nouvelles, c'est long. Tu restes un peu dans le coin.
Je peux te poser une question. J'ai jamais compris pourquoi c'est toi qui l'as choisi.
Allez, on revient pour notre spécial Sans Pitié en ce début d'année 2026. Ça fait partie de nos premiers coups de cœur de l'année. Et ça tombe bien puisqu'on vous disait, hein, c'est pas qu'un film d'homme, c'est aussi un film de femme, ce film. Et Bérangère McNeese nous a rejoint. Bonjour Bérangère.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Laura Sépulé est avec nous aussi. Bonjour Laura.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et puis du coup, comme on n'a pas Ryan adulte, on a Ryan jeune. Tu nous as ramené ton fils de fiction, Laïs Mayas. Bonjour Laïs.
Bonjour.
Merci d'être avec nous tous les trois. Alors, on a planté un peu le décor justement avec Julien, Adam et Jonathan. On va parler plus de vos personnages du coup. Laura, tu interprètes donc Maria, qui est la maman de ces deux garçons. L'un des deux va disparaître, c'est ce qu'on disait. Donc il va y avoir toute une histoire autour de ça qu'on va pas dévoiler évidemment. Mais comment tu t'es approprié déjà le rôle de Maria et qu'est-ce qui t'a plu en elle ?
Alors, ben j'ai la chance d'être maman. Donc je pouvais quand même déjà projeter des choses sur ce que c'est qu'avoir un lien très fort avec des enfants. Et puis en lisant le scénario, je trouve que c'est un personnage, en fait je trouve que c'est vraiment un personnage central. On la voit pas très très longtemps dans le film, mais à partir du moment où elle disparaît, tout fout le camp. Et c'est comme si c'était elle qui tenait ce clan quelque part. Pour moi c'est enfin un personnage central et que je trouve aussi que c'est quand même un film vachement féminin. Voilà.
C'est vrai, oui, non, mais t'as entièrement raison. C'est vrai que c'est pour ça que je disais, c'est pas uniquement un film d'homme. Au contraire, et c'est vrai que ce personnage, c'est une maman très, très aimante, très protectrice, parce que c'est une mère seule aussi, qu'elle a ses deux enfants.
Oui, et c'est, ce qui est fou, c'est que c'est, après, c'est Ryan qui va élever sa fille seule. Donc, c'est ce monde de forains. Je crois que c'est une grande famille, en fait. Elle élève pas ses enfants toute seule. Elle les élève dans le clan, avec les autres, et je pense qu'elle élève Julia aussi, et que c'est une grande famille, eux, tous ensemble, quoi.
Alors Bérangère, toi tu joues Julia, qui est une amie d'enfance de Ryan, qui a été témoin de choses aussi dans le passé concernant Dario, justement, et qui ressurgira certainement par la suite dans sa tête aussi, avec des talents aussi, cette petite fille qu'on voit au début, et puis qu'on voit évoluer au fur et à mesure.
Oui, c'est un film qui se déroule, je ne sais pas si vous l'avez déjà avancé, j'imagine, en deux époques, et donc Flavie qui joue mon personnage plus jeune est vraiment... hyper lumineuse et c'est vraiment super ce qu'elle fait dans ce film. Et puis moi j'arrive dans l'époque suivante et Julia c'est vraiment un personnage de... Bah, c'est l'amie d'enfance et celle qui avait des rêves et qui s'est un peu... qu'elle n'a pas vraiment réalisé. Donc il y a une forme de résignation Et puis c'est aussi celle qui a été témoin de l'événement vraiment traumatique du film et qui, je pense, a un peu la culpabilité de la survivante aussi. Et c'est ça qui
a fait un peu la clé de voûte justement de cette expédition punitive.
Oui, je pense que c'est quelque chose qui lui a toujours pesé et qui va éclater à ce moment-là, au moment où le film prend place. Et que c'est à la fois très libérateur et en même temps ça réveille tout ce que ses enfants ont vécu ensemble et qu'ils ont décidé de ne jamais traiter en fait jusque-là.
Qu'est-ce qui t'a plu en premier chez Julia quand t'as lu le scénario Bérangère ?
Moi j'ai aimé que ça soit... c'est bête, mais le fait que justement elle n'ait pas d'attache forcément sentimentale à aucun personnage, elle existe en tant que telle, en fait c'est très rafraîchissant de trouver ça. J'ai aimé la confiance de Julia en ce personnage, du fait qu'elle raconte... Elle fait le lien en même temps entre le passé et le présent, et elle est à la fois résignée et à la fois... Je pense qu'il y a aussi une forme de nouvel attachement, il y a quelque chose qui se crée entre ces personnages quand ils se retrouvent, qui est beau quoi. Et tout ça est hyper gai à jouer. Et après, il y a eu quelques challenges de jeu aussi. Et voilà, je dois faire des trucs dans le film que j'avais jamais fait. Donc c'était assez flippant. Et notamment chanter, par exemple. Voilà, ça c'était une nouveauté.
Écoute, en tout cas, on a découvert une très jolie voix. Écoute, c'est un rôle totalement différent de ce qu'on a pu voir dans HPI, par exemple. Donc c'est vrai que là, on est à des années-lumière, justement. Et c'est ça qui est bien, c'est de te voir jouer complètement autre chose. Alors Laïs, toi tu joues Ryan jeune, alors qui en est un peu à ses premiers émois amoureux. Et c'est vrai qu'on va dire il va complètement craquer pour Kelly quand même celui-là.
Ouais. Je m'en souviens. Ryan craque carrément pour Kelly. Mais c'est un ado. Il découvre les filles et il en devient pas très rationnel.
Ouais, parce qu'il va en laisser son petit frère et c'est à ce moment-là que justement les choses vont se passer. Et à la fois c'est un personnage qui quand il va apprendre ça plus tard va être rongé aussi par cette culpabilité.
Moi, le personnage de Ryan, comment je l'ai abordé, c'est le mot principal, c'est la culpabilité qui vit plus vieux. Moi, je n'ai fait que penser, il faut que je serve de quoi se sentir coupable à Taufik dans le rôle de Ryan plus vieux. Et c'est comme ça que j'ai abordé ce rôle-là et c'est incroyable à jouer parce que ça tue le cœur. C'est des émotions qui sont d'une grande amertume et c'est important de les jouer et de les découvrir.
C'est déjà un jeune garçon qui est très mature dans sa tête, qui est limite déjà très dur.
Bah Ryan, il tient la baraque. Hein. Ils vivent dans une caravane avec sa mère qui est fumeuse, a l'air d'avoir une santé qui se détériore. Ils ont un stand à tenir. Ryan a des responsabilités très 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 jeune. Il a 16 ans dans le film et il vit presque de son propre chef, quoi.
Laura, quelle était la scène la plus difficile pour toi ?
Eh ben, je pense que c'est la scène de la caravane, parce qu'on se connaissait pas. On a réécrit au fur et à mesure. Il y avait aussi donc l'acteur qui joue le Dario plus jeune, qui n'avait jamais tourné. Et on était enfermés dans cette caravane et c'était pas évident à mettre en place avec. Il y avait du mouvement beaucoup dans cette scène.
C'est un endroit exigu.
Voilà, et avec deux jeunes sublimes comédiens mais qui n'étaient pas expérimentés, c'était très compliqué à tourner cette scène et à trouver le naturel entre nous aussi. On se connaissait pas bien, il fallait qu'on ait l'air d'avoir déjà vécu 16 ans ensemble, quoi. Voilà, pour moi c'était la scène la plus compliquée parce que c'était le premier jour aussi, je crois. Et puis une fois que celle-là a été tournée, ben je trouvais que c'était tellement évident en fait avec Julien. Il y avait tellement cette confiance qu'il nous faisait et qu'on avait envie de lui faire. Et puis avec le chef-op, que moi c'est la première fois de ma vie que j'étais sur un plateau et que j'oubliais qu'il était là. J'oubliais la caméra tellement ce gars est fantastique et discret et juste. Ben on était à la maison à un moment en fait et donc c'était plutôt évident à jouer. Voilà.
C'est chouette. Dernière question justement, ce sera pour Bérangère ce coup-ci, la même. Quelle a été la scène la plus difficile pour toi ?
Je pense que c'est un film qui est traversé par beaucoup de moments de très grandes émotions. Les personnages traversent des choses vraiment dures. Donc il y avait à la fois il y a tout ça en fait à sortir quoi, et c'est très jubilatoire quand on est acteur d'avoir des choses aussi belles à jouer, mais c'est vrai que c'est un peu intimidant. Mais je vais pas vous mentir, je pense que le plus dur c'était vraiment de chanter.
Ça l'a traumatisé. Vraiment, ça l'a traumatisé, Bérangère. Et quand le premier album ?
Non. Mais puis moi, je viens d'une famille de musiciens et donc la musique, c'est quelque chose qu'on fait pas en dilettante, quoi. Donc quand on m'a demandé de chanter, j'étais, c'est pas mon métier. On m'a dit, on s'en fout. J'étais avec quand même, c'est mieux. Donc j'étais un peu coachée, tout ça. J'ai essayé de faire les choses bien. Mais c'est quelque chose qui m'intimide beaucoup. Et donc c'était avec une équipe, quoi. Et autant quand on lance le moteur et l'action, ça fait un petit moment que ça va. Je sais ce qu'il faut Mais alors là, il fallait se mettre à chanter devant une équipe et j'étais. Ça, ça m'a fait.
C'est ça, c'est parce qu'il y avait toute l'équipe et tout. Mais tu devrais t'y attarder quand même, je te le dis.
C'est très gentil, merci.
Merci toutes les deux et puis à toi aussi, Laïs, d'avoir été avec nous pour terminer cette spéciale Sans Pitié. Ça sort donc mercredi au cinéma. Moi, comme on est le 12 janvier aujourd'hui, je vous souhaite une très belle année 2026. Et puis plein de, j'espère, de beaux projets encore qui vont vous animer et j'espère vous revoir bientôt. Dans Chute, on écoute la télé. Merci Bérangère.
Merci à vous.
Merci Laura, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Et merci Laïs.
Merci, c'était un plaisir.
Je t'ai attendu. Ça tapait dans le sol comme des bruits de marteau. C'est comme si le sol s'était ouvert sous mes pieds.
Ton frère, il était où?
Comment ça, mon frère?
Pardon.
Ça fait combien de temps qu'il voit ce type?
Qu'est-ce que tu cherches? Maman, elle est morte! Tu vas me ramener le malheur ici!
Tu crois en Dieu? Non.
Allez, ne bougez pas, dans un instant, notre spécial Le Diplôme, Jean-Marc Généreux, Reda Kateb et Jean-Paul Salomé débarquent. Dans Chut, on écoute la télé, à tout de suite.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant, à tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Dans le silence depuis l'enfance, je me cache, je m'efface. Mise en lumière, comment me faire cette place, moi qui suis née pour que l'on me voie. Entre deux filles, dis-moi qui je suis. J'ai besoin de trouver ma place. Je connais les conflits, je fais trop de bruit, mais j'ai pas peur de mon audace. Regarde-moi bien en face. J'en ai assez, je veux briller à travers la nuit. On a que moi. Par le passé, j'ai caché ses marques loin. J'ai tant menti, oh oui, bien trop de fois. Mais j'en ai assez, je veux briller à travers la nuit. Car les guerrières sont là et chantent.
On écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Notre coup de cœur télé est consacré à la série Le Diplôme qui débarque ce soir sur TF1. Nouvelle série événement créée par Fanny Hiriette-Berger qui est avec nous. Bonjour Fanny.
Bonjour.
On est très heureux de te retrouver après les randonneuses, après les lycées Toulouse-Lautrec, évidemment. On t'accompagne à nouveau. Et on en est très fiers parce qu'en plus, un réalisateur de talent et un habitué aussi d'émission, Philippe Lefebvre. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Merci d'être là. Alors, comment est venue l'idée de cette série, Le Diplôme, où on va retrouver des adultes qui vont se lancer un défi de taille, celui de passer le bac.
D'une heure tardive où je regarde des documentaires quand j'arrive pas à dormir et je suis tombé sur un documentaire qui parlait d'un lycée qui est unique en France, qui s'appelle le lycée d'Alésia dans le 14e et qui accueille à partir de 18h jusqu'à 22h des adultes qui viennent passer le bac.
Alors évidemment, ils vont tous être avec des histoires différentes, des histoires tourmentées pour certains, des histoires personnelles chargées même, je pourrais dire.
Oui, ils ont tous des parcours de vie singuliers et parfois chaotiques. C'était la difficulté de ce projet parce que je pense que le pitch, un adulte qui passe le bac, c'est soit un long métrage, soit il faut trouver suffisamment de matière pour raconter une série, de raconter à quel point c'est vital pour eux. Donc ils ont sans tout dévoiler des parcours durs, voilà, et ce bac, c'est un vrai enjeu pour eux.
Philippe, un casting de fou. Qu'est-ce qui t'a fait dire oui pour aller à la réalisation ?
Alors, avant le casting, puisqu'on l'a fait ensemble avec Fanny, c'était d'abord l'histoire, c'était d'abord l'arène que je trouvais très singulière et pas encore du tout traitée à la télévision, d'une classe de lycée pour adultes. Et à travers ça, justement, tous ces parcours hachés qui font qu'on peut se retrouver à la cinquantaine à devoir passer le bac. Et c'est intéressant parce qu'un bac, en fait, c'est pas une finalité, c'est une espèce de passeport pour quelque chose d'autre. Et pour tous ces gens, c'est une porte ouverte sur l'avenir. Alors, c'est pas tous pour faire des études supérieures, mais c'est pour accéder à une émancipation, en fait. Et moi, c'est un thème qui me touche beaucoup et que j'adore, c'est l'affranchissement. C'est-à-dire comment on s'affranchit des carcans, comment on se libère de choses qui nous pèsent, que ce soit professionnel, sentimental, affectif, voilà. C'est l'épanouissement et de l'affranchissement.
Fanny, moi ce que j'aime, c'est dans tes projets, il y a toujours quelque chose de profondément humain et surtout aussi des sujets forts, sujets du cancer avec les randonneuses, des sujets du handicap aussi au lycée. J'ai l'impression qu'à chaque fois que tu crées une série ou que tu fais quelque chose, il faut que ça serve, tout simplement aux gens qui vont la regarder.
C'est vrai, parce que c'est un métier bien trop dur sinon, donc moi je fais des séries, ouais, parce que j'estime qu'elles sont nécessaires. Voilà, et après le luxe de ces séries chorales, là pour le coup dans une arène qui prépare paraître légère, puisque ça pourrait être de la comédie tout simplement, permettre de toucher des sujets très sensibles qui pourraient être un peu effrayants sur le papier pour un diffuseur, parce que traiter d'une femme battue c'est compliqué, donc voilà, on peut naviguer, et c'est moi, c'est des personnages que j'ai envie de mettre en lumière, voilà, toutes ces problématiques je pense que c'est nécessaire, ouais.
Alors on va y retrouver le personnage de Clémentine Sélarié qui cache à son mari, elle, qu'elle veut le repasser le bac et qu'elle a repris en tout cas ses études. On verra comment ça va se dérouler, ça va pas être de tout repos. On a Camille Lelouch.
C'est une mère courage, mais elle a un mari qui est super d'ailleurs. Trois enfants, dont un petit qui est malade, qui souffre d'hyperactivité. Et une grande ado en pleine crise d'adolescence.
Et elle est chauffeur de taxi la journée et elle prend ses cours le soir de 18h à 22h. Moment où elle passe le taxi à son mari qui lui va faire la nuit. Donc c'est une espèce c'est une famille qui tire le diable par la queue et qui essaye de s'en sortir, en fait. Et ce bac pour elle va être un moyen de s'en sortir mieux, en tout cas.
Il va y avoir aussi le personnage de Julie Sassoust, hein, qui est très mutique dès le départ, qui va avoir du mal aussi à se révéler, qui laisse passer des émotions très forte, rien qu'avec le regard, avec la gestuelle.
Oui, elle a été, c'était un challenge pour elle, je crois, justement, c'est comment exister dans le silence. C'est la difficulté de ses écritures aussi, c'est comment on esquisse des personnages sans trop en dire, parce que l'idée c'est d'avoir des surprises, des révélations au fur et à mesure. Et elle a été super là-dessus, je pense qu'elle a vraiment compris elle porte un poids, ça, c'est certain, c'est très lisible. Et on va découvrir au fur et à mesure qu'elle porte le poids d'un sujet de société aussi très omniprésent, voilà, les souffrances des adolescents, le harcèlement scolaire. Oui, elle est super.
Guillaume Labbé.
C'était difficile pour Julie parce qu'elle était mutique dans le premier épisode, mais c'est aussi difficile pour les autres acteurs qui n'avaient pas leurs problématiques traitées dans ces deux premiers épisodes. Donc il fallait exister sans qu'on en sache trop sur quel était leur parcours de vie, pourquoi ils étaient là, qu'est-ce qu'ils voulaient, pourquoi ils passaient le bac. Et mon travail, ça a été d'essayer d'intéresser le spectateur tout le temps, même sur des personnages qui seraient traités plus tard, en gardant un équilibre, en instaurant des petites pointes de réflexion sur ces personnages, en tout cas des questionnements, en se disant, tiens, c'est marrant, pourquoi il arrive toujours en retard, Guillaume Labbé, pourquoi c'est le seul à pas vouloir aller boire un coup après les cours avec tout le monde, tout ça avant de savoir pourquoi.
et de découvrir son histoire à lui aussi. On a le chauffeur Uber aussi, hein. Je crois le jeune Ahmad, le jeune comédien.
Livreur,
oui.
Ouais, livreur. Oui, c'est un sacré parcours. Il était médecin dans son pays et il revient en France. Les diplômes sont plus valables. Donc c'est quelqu'un qui se bat tous les jours et qui est donc livreur Uber la journée et qui arrive au lycée le soir. Voilà.
C'est vrai que c'est des parcours de vie qui sont très forts, mais alors traités par moments sous le ton de la légèreté, et puis parfois des moments beaucoup plus graves aussi. Quand la vie, c'est vraiment, on oscille sans arrêt avec un ascenseur émotionnel très fort en tout cas.
Bah, la fameuse dramédie, moi qui m'est chère, c'est toujours très agréable de naviguer dans les émotions.
C'est vrai que Fanny, elle aime bien nous faire rire et nous faire pleurer à la fois en 5 minutes.
Ouais, c'est vraiment sa marque de fabrique. Et moi, c'est ce que j'adore faire en réalisation. Enfin, c'est des enjeux vrais, des parcours vrais, des personnages vrais. Voilà. Je réalise comme un spectateur, en fait. Je réalise ce que j'aimerais voir, en fait.
T'aimes bien avoir du monde devant les caméras, Philippe. T'as souvent fait vraiment beaucoup de séries aussi, de troupes, avec beaucoup de comédiens à gérer devant la caméra.
C'est-à-dire que moi, je me suis mis à réaliser. Enfin, j'ai voulu accéder à la réalisation pour travailler avec les acteurs. En fait, je suis acteur à la base, et que c'est vraiment mon plaisir de réalisateur, c'est d'abord travailler avec les acteurs. Et j'ai la chance d'avoir souvent des castings, alors parfois nombreux, mais souvent des très bons acteurs. Et là, ce sont vraiment des très bons acteurs. Ce casting est vraiment fou. Camille Lelouch, Clémentine Sellary, Bernard Campan, Guillaume Labbé, Julie Sassous, Isabelle Gélinas, Charles Berling, Cécile Reboa, Fred Azan. Le casting est vraiment dingue.
On va pas s'ennuyer. Je vous le dis, accrochez vos ceintures ce soir. Le diplôme débarque sur TF1 à 21h10. Nouvelle série réalisée par Philippe Lefebvre et créée par Fanny Riedberger. Est-ce qu'il y a des projets un peu dans les tiroirs déjà? Est-ce qu'il y a des choses un peu en développement qui nous attendent, Fanny?
Oui, mais j'ai le droit de rien dire. Mais il y en a.
Je reviendrai.
Ouais, faudra revenir bientôt. Absolument.
Bon, tu seras bienvenu, tu le sais, comme d'habitude. Philippe, les projets en tant que réalisateur, comédien?
En tant que réalisateur, je vais réaliser une série pour TF1 qui s'appelle Chercheur d'or avec Audrey Fleurot.
Génial. Wow. Ça s'annonce fort, là.
Ouais, sur l'île de la Réunion.
Ah bah en plus, bon, bah écoute, qui demande mieux, franchement, ça va être top tout ça. Merci beaucoup en tout cas tous les deux, diplôme, c'est ce soir, c'est les deux premiers épisodes qu'on va découvrir à 21h10. Merci, et on écoute tout de suite la bande-annonce.
Intégrer notre lycée, c'est s'engager à venir tous les jours, de 18h à 22h.
Passer le bac à nos âges, c'est la honte.
Soyez pas courageux, moi, au contraire.
Oh, je crois que je suis trop vieux pour ces conneries. Hein.
Est-ce qu'avoir le bac est vital pour vous, Madame Gilbert?
Allez, c'est Clémentine Sellary qui est notre invitée aujourd'hui. Clémentine, bonjour.
Bonjour.
Je suis très heureux de te retrouver. On va parler évidemment livre avec toi, avec ce feu qui me brûle. Tu racontes évidemment toute ton ascension et surtout comment le théâtre, comment effectivement la scène t'a sauvé, comment jouer aussi t'a fait du bien évidemment dans ta vie. On va parler du diplôme aussi dans un instant, cette série magnifique. Clémentine, pour commencer sur le livre, ce feu qui me brûle, raconte-nous un peu.
Mais en fait, c'est pas vraiment mon ascension, dans le sens où moi j'ai pas l'impression d'être tu vois dans une, mais bon, on grimpe toujours une montagne, on avance dans la vie, plutôt que de vieillir, c'est quoi ce truc, on avance, on a la chance d'être debout, d'avoir deux jambes et le feu, c'est juste que la passion, je pense que c'est une chance d'avoir une passion dans la vie, une passion artistique, amoureuse évidemment, mais une passion artistique, c'est merveilleux parce que je pense que ça tient. Tu vois, ça tient debout, c'est la part de rêve qu'on s'accorde et qu'on veut réaliser. Ça a contribué fortement, d'abord ça me fait lever le matin. Moi j'écris en ce moment, j'écris ma prochaine pièce de théâtre qui s'appelle Le Cowboy qu'on va jouer à Avignon cette année, enfin l'année prochaine, 26. Et en fait j'écris un autre roman, j'écris un film. C'est la passion de raconter des histoires, d'avoir toujours ce lien avec l'enfance aussi. Je parle beaucoup de l'enfance dans mon livre. Et puis d'avoir la chance d'incarner des rôles, tu vois. C'est comme de jouer à la marchande, quoi. C'est-à-dire que tu as plein de rôles, tu te déguises, en fait. J'ai une grande copine qui s'appelle Élodie Godard, qui est une super actrice. Elle me dit, mais toi, t'aimes toujours te déguiser. Bah oui, en fait. Je crois que c'est entre autres pour ça que je fais ce métier. Me déguiser dans le sens de vraiment me mettre dans une autre peau, une autre vie. Et je pense que toutes ces vies, comme des gens qu'on rencontre, sont des richesses, tu sais. Ça t'apporte d'être flic, d'être avocate, d'être une femme dans Mémoire vive qui tue des machins, d'être une femme qui a le cancer dans Les randonneuses, d'être, tu vois, enfin, dans Le diplôme, ça parle de plein de solitudes, de gens, d'adultes qui passent le bac parce que c'est le lien social de l'école, du lycée, tu vois, ils se retrouvent là. Mais en fait, ils ont chacun quelque chose à résoudre dans leur vie.
On va en parler dans un instant, Clémentine, pour le coup, parce que c'est vrai que tout est lié. Et moi, ce qui me frappe, c'est que tu racontes dans le livre que c'est à 16 ans qu'il y a eu ce déclic. C'est ta maman qui t'a emmené voir un spectacle à tes 16 ans. Et t'as su tout de suite, immédiatement, que c'était quelque chose qui était fait pour toi.
Ça m'a frappé comme la foudre. C'est comme si t'as la main comme ça qui vient te... C'est-à-dire, toi, tu vas faire ça. C'est, pour moi, c'était obligé, parce que c'était merveilleux. Il y avait le merveilleux devant moi, comme un miracle, tu vois, comme quelque chose de... Et je voulais faire ça, quoi. Je voulais continuer d'être dans l'enfance, en fait, de rêver, d'inventer, de fabriquer, de croire à un monde que tu fabriques, que tu inventes, que tu crées. Et moi, je suis resté, j'ai toujours 16 ans, en fait.
Est-ce qu'il y a plus beau que de se lever le matin en se disant « on va jouer » ?
Ah ben, il n'y a rien de plus beau que ça.
Surtout quand on est adulte.
Ah ben oui, exactement. De jouer d'ailleurs dans tous les sens du mot, de jouer, bien sûr. Mais après, avec le travail, avec la maturité, ce qui est génial, c'est que tu incarnes de plus en plus, tu te libères de plus en plus, tu es de plus en plus, tu vois, tu as un instinct qui devient vraiment ton guide, je sais pas comment te
dire. Ton moteur.
Ton moteur et qui se sculpte au gré du temps et c'est merveilleux. Puis tu es moins pudique, tu te laisses plus aller dans des libertés de rôles qui sont quelquefois en plus pas coquets aussi. Tu as moins cette obsession de la coquetterie tout le temps que j'aime pas dans mon métier. Il faut s'oublier complètement pour moi dans un rôle, complètement s'oublier.
Ah ben, moi je trouve que tu es une des rares actrices certainement à imprégner autant les rôles que tu incarnes. Ça c'est quelque chose qui me frappe à chaque fois chez toi, c'est que dans tous ceux que tu incarnes, on sent vraiment le personnage et que tu es complètement imprégné du personnage.
Merci. Mais c'est parce que sinon pour moi c'est pas intéressant et quitte à devenir je suis la maman du bourreau de David Lelaello, que j'adore, qui est un écrivain, je vous conseille de lire son roman du même nom. Bah oui, c'est une femme qui a 90 ans, il fallait me vieillir, on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est pas. Il y a des rôles, le film d'Alex Lutz que je vous conseille aussi tous d'aller voir, c'est Connemara. Dedans, j'ai un petit rôle, mais je fais une femme complètement détruite, mais elle est comme ça, c'est elle. Il faut y aller, il faut le faire, sinon ça n'a aucun intérêt. Je veux dire.
En tout cas, tu racontes tout ça dans ce feu qui me brûle. Moi, je vous invite à découvrir en tout cas ce très joli livre de Clémentine Sénarié. Alors, le diplôme arrive bientôt sur TF1. L'histoire de personnages qui décident à l'âge adulte de passer le bac avec tous des histoires différentes, des histoires graves, des histoires un peu plus légères. Et il faut dire que, en tout cas, toi, ton rôle, t'es sacrement bien servi avec vraiment le rôle d'une femme qui est sous emprise de son mari, sous sa coupe complète. Et c'est vrai qu'on souffre tellement avec toi dans ce rôle. C'est compliqué des fois d'avoir ce rôle où on se sent investi un peu d'une mission aussi.
Moi je l'ai vécu ça, donc j'ai pas vécu exactement ce qui se passe dans le film, mais j'ai vécu la violence d'un homme que j'aimais, que j'adorais même. Et j'écris d'ailleurs un film là-dessus. Une mission, oui, enfin évidemment, ça c'est la base. Tu joues, tu incarnes quelqu'un et tu le fais avec le plus grand cœur possible, le plus grand honnêteté, la plus grande sincérité possible, parce que c'est essentiel pour les femmes qui le vivent là aujourd'hui.
Et quand c'est écrit par quelqu'un qui a un cœur comme ça aussi, comme Fanny Redberger, qui est incroyable.
Ah oui, mais parce que essentiel. Et quand j'ai eu ce prix à La Rochelle, ça m'a bouleversé parce que c'est comme une main tendue. Et puis tu penses à toutes les femmes qui vivent ça, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on croit. Tu sais, c'est comme le cancer. Hein. Quand tu commences à parler de ça, hop,
se délie.
Mais surtout, là où je veux insister, c'est que bon, moi j'ai eu la chance d'avoir ce prix et c'est un rôle très fort. Et surtout, Charles Berling est extraordinaire. Il fait mon mari qui me violente. Et parce qu'il a le courage, lui, d'incarner un homme horrible. Mais il y en a.
Il est exceptionnel, Charles.
Il devient tout d'un coup un monstre. Il n'est pas. Enfin, ça le dépasse, c'est atroce. Bon, bref. Mais surtout, je voulais insister sur le fait que c'est vraiment un film de groupe collectif. C'est un film choral et qui parle du combat, de la vie, de combative. Ça parle, c'est très positif. Ce n'est pas du tout une série qui est plombante, parce que comme c'est un truc sur le combat.
Il y a beaucoup de touches de comédie malgré tout, comme elle a su le faire, hein, Fanny, sur Lycée Toulouse-Lautrec, ou sur vraiment ces séries qui sont emblématiques comme Les Randonneuses.
Il y a le truc de se réunir et de trouver une force dans le lien social au lycée. Tu vois ce que je veux dire, d'aller et de trouver un soutien chez des personnes que jamais tu aurais rencontrées en dehors du lycée. Parce que c'est des gens qui passent le bac pour des raisons d'émancipation personnelle, pour pouvoir faire ceci, faire cela. Il y a Camille dedans, Lelouch.
Camille Lelouch.
Il y a Guillaume Labbé, il y a Bernard Campan qui est extraordinaire. Tout le monde est génial.
Ouais, c'est extrêmement bien équilibré.
Et c'est une très belle série que j'ai adoré tourner et j'ai hâte qu'elle sorte vraiment.
T'as hâte éventuellement de faire une saison 2 si ça cartonne ?
Oh ben écoute, on verra. Hein. Déjà, regardons la première.
Et on sera là, d'accord, déjà, pour les deux premiers épisodes. Merci Clémentine, on te dit à bientôt.
Merci, à bientôt. Merci beaucoup.
J'essaie d'avoir mon putain de bac pour sortir de cette voiture.
Tu trouves pas qu'on est un peu folle ?
Bah non.
J'ai l'impression d'avoir 18 ans.
Rassurez-vous, ça se voit pas.
Le Diplôme, votre nouvelle série inédite, prochainement sur TF1.
Allez, on va parler livre aujourd'hui avec le livre de Jean-Marc Généreux, « Chaque pas est une leçon de vie ». Et moi, je n'ai qu'une chose à dire, j'achète.
Ah ben bravo, parce qu'aujourd'hui, moi, je vends. Donc, tu vois comment on est complémentaires.
Mais franchement, c'est génial. Jean-Marc Généreux, merci d'être avec nous encore une fois. C'est un véritable plaisir de te recevoir et surtout avec un livre, encore une fois, très personnel que tu nous livres ici.
Absolument, c'est sans prétention. J'ai un parcours, j'ai envie de dire, comme beaucoup de gens, qui est fait un peu en dents de scie, hein, avec des hauts et des bas. Et ce que j'explique dans le livre, c'est que j'essaye le plus possible d'exposer le défi qui amène à une certaine leçon. Et je veux la partager, cette leçon, parce que c'est leçon. Parce que pour les moments qui sont des fois très joyeux et d'autres qui sont un peu plus tristes, des fois on essaye de trouver des solutions à notre échelle par rapport à notre propre parcours. Et des fois on se sent seul au monde. Et parfois, de voir comment une autre personne s'en est sortie, peut-être que ça peut inspirer d'autres à trouver, en tout cas, des pistes de solutions. Sans prétention, je partage mes petites leçons de vie et j'espère qu'elles résonneront dans la tête et dans le cœur des gens.
J'ai l'impression que ce livre est une vraie leçon de positivité.
Ah oui, ben ça, déjà de base, pour tout ce qui m'est arrivé, aussi positif que négatif, j'essaie de garder le meilleur de la situation.
Dans ce livre, tu reviens sur ta carrière, bien évidemment, tu reviens aussi sur ta famille, sur ta fille, tu reviens sur beaucoup de choses aussi personnelles, mais aussi professionnelles. On peut dire qu'en ayant lu ce livre, on en saura beaucoup plus sur Jean-Marc Généreux quand même.
Oui, et puis moi je dis toujours que je suis le gars le plus ordinaire qui lui arrive des choses extraordinaires. Ce message d'espoir et de positivisme réside dans le fait que je pense n'importe qui, s'ils prennent le temps de regarder autour d'eux, verront les opportunités. Et ne pas se juger, et ça c'est une leçon qui est hyper importante, ne pas se juger soi-même ou trop sévèrement. Et souvent les gens vont arriver à un croisement, un moment charnière dans leur vie, et ils vont dire « Ah non, je serais pas capable ». Et là, on se refuse nous-mêmes. Je pense qu'il faut pas se dire non. La vie, des fois, elle va tomber comme une l'épée d'Amoglès, et ça va tomber, et ça va te couper. Mais tu pourras pas le sentir ou pas le savoir si tu ne traverses pas cette ligne. Des fois, il faut prendre des risques. Et les premiers risques, c'est nous à être convaincus. Et moi, je suis un gars, je le dis en anglais, mais moi, je suis un yes man. Tu veux faire ça? Yes! Et donc, ouais, peut-être que des fois, ça n'a pas été le bon choix, mais en général, ça m'a toujours porté fruit.
Ouais, et puis on se relève toujours effectivement parce que chaque pas est une leçon de vie évidemment. Dans chaque pas, il y a la danse qui fait partie intégrante de ta vie d'artiste, puis de la nôtre aussi parce qu'on aime tellement te voir. Heureusement que t'es revenu dans Danse avec les Stars, il était temps.
Ça c'est une belle histoire que je raconte long en large dans ce livre parce que quand il y a eu ce truc qui s'appelait le Covid-19, cette pandémie qui a marqué le monde entier, ben à partir de ce moment-là, toutes les émissions par lesquelles que je participais, c'était interrompu, hein, c'était fini. Et donc, quand France 2 m'a proposé d'incarner une émission spectaculaire, ben j'ai absolument accepté, mais il fallait...
Yes man.
Eh oui, yes.
Le fameux yes man. Eh
oui, j'ai dit yes, j'y vais. Il y avait quand même une certaine complexité, il fallait annoncer mon retrait de Danse avec les Stars. Et donc, j'ai fait tout ça, j'ai fait spectaculaire, et à un moment donné, la pandémie s'est estompée, et là, Danse avec les Stars est recommencée, mais moi, j'avais dit adieu. Et donc, dans ma tête, c'était fini.
Le problème, c'est que ce duo avec Chris Marquez, il est indissociable.
Aïe, aïe, aïe. Mais comment vous dire? C'est très drôle parce que, justement, pour la saison 12, parce qu'il y a eu une saison 11 qui a été magnifique, mais j'étais pas là, hein. Moi, j'avais arrêté à 10. Et pendant la saison 12, ben, la COVID avait frappé Chris, et donc ils m'ont appelé en urgence pour venir faire un petit remplacement d'un soir. Et là, quand je me suis assis sur la chaise, il y avait encore la forme de mes fesses. Donc, à quelque part, je me dis, je suis potentiellement à la bonne place. Et la production, je pense que ça les a pas déplu. Après, les choses ont cheminé. Il y a eu un grand moment d'attente pour d'une saison entre la 12 et la 13. Il y a eu presque 16 mois interrompus parce que il y avait eu le championnat du monde de rugby. Et ça les a donné le temps de réfléchir et de regarder à une nouvelle mouture. Ils sont revenus à un mot qui devenait assez important, les fondamentaux. Et quand ils sont mis à étudier ce qui a bien marché dans les premières saisons et pour repartir la machine, pour en mettre une pièce dans la machine, ils disent qu'il faut revenir aux fondamentaux. Mais apparemment, que je fais partie des fondamentaux.
Quels sont les artistes dans Danse avec les stars? Est-ce que tu en parles dans ton livre, justement, qui t'ont le plus marqué, qui t'ont aujourd'hui le plus ému?
Est-ce que
tu vois des Mayan, quand je vois des Lenny qui ont performé, qui ont mené franchement une émission sans aucune fausse note?
Est-ce que tu as 3 jours? Hein, parce qu'il y en a une multitude. Honnêtement, en toute honnêteté, que tu sors au premier prime, au deuxième, ou au onzième prime, ou douzième prime, ils m'ont tous marqué. À des façons différentes. C'est sûr que je peux pas oublier dans ma tête Matt Pokora, qui est notre premier champion, qui s'est retrouvé en finale avec Sofia Essaidi et David Ginola. Cette première finale qui était incroyable, ou la deuxième avec Scheim et Philippe Candeloro, c'était fou. On a eu des moments magiques. On a eu avec Loïc Notet, avec Laurent Mestret. On a eu des célébrités qui se sont révélées. Adil Rami, ça rime avec ami. Le gars est ami avec tout le monde, mais tu dis, est-ce que t'es ami avec toi-même? Parce que là, t'as un gros travail à faire. Et le gars s'est transformé en danseur. Quand Florent Manoudou, il a que dire de la Lenny cette année. C'était fabuleux, c'était fantastique. Et après, on a vécu des moments avec des rebondissements un petit peu intéressants. Hein? On a eu Keyona, on a eu Inès et Natacha, on a eu Nico Capone. Et chaque saison, pour moi, m'ont marqué, mais il y a un gars en particulier, Laurent Ournac, qui à une époque, aujourd'hui, tout va bien. On peut danser dans toutes les formes, les grandeurs, et tout. Oui, on est passé à un autre cap. Mais lui représentait pour moi l'antithèse du danseur de danse de salon, et le gars a performé avec Denitsa Ikonomova, ont eu une saison de ouf. Pour moi, ça l'a ouvert la porte à des Artus, ça a ouvert la porte à plein de gens qui sont venus après et dire, hein. Si Laurent Ournac...
Et à l'animation de l'émission, carrément.
Ah oui, mais Laurent Ournac, pour moi, c'est un gars qui est fabuleux. Il est aussi bon sur scène en impro ou comme quand c'est structuré dans ses fictions et tout ça, comme danseur, comme être humain. Et le gars travaillait dans le coin de Marseille pour faire Camping Paradis.
À Martigues,
ouais. Ah oui, et là, il venait à la dernière minute, mais il est hyper talentueux. Pour moi, respect incommensurable pour ce jeune homme.
Pas de stage de danse au Camping Paradis encore?
Bah moi, je suis toujours dispo, les gars.
Ça serait génial, ça.
Vous m'appelez et puis je suis là. Hein.
Bon, en tout cas, ne ratez pas ce livre. Chaque pas est une leçon de vie, signé Jean-Marc Généreux, qui fera son retour le 23 janvier dans la nouvelle saison de Danse avec les Stars pour de nouvelles aventures avec de nouvelles célébrités qui vont encore nous embarquer dans des tourbillons, évidemment, de danse au fil des semaines. Merci, mon cher Jean-Marc.
Merci, et je veux juste continuer là-dessus un petit peu. La production travaille tellement fort pour créer des écrins tous les vendredis pour nous faire rêver. Moi, je veux leur dire chapeau bas à toutes ces équipes qu'on voit pas, qui travaillent dans l'ombre pour nous amener dans la lumière et pour mettre ces artistes dans des plus beaux écrins. J'ai hâte de retourner sur ce plateau. J'ai hâte à la saison 15. Oh là là, Chihuahua, et ça, j'achète.
Chaque pas est une leçon de vie. C'est aux éditions Le Duc.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé cette semaine est consacré à nouveau à Il était deux fois, la série événement actuellement librement adaptée du roman Il était deux fois de Franck Tillet, avec Béatrice Facquer qui nous a rejoint. Bonjour Béatrice.
Bonjour.
qui joue le rôle de Solène Pelletier, qui a enquêté en 2013. Alors, on va resituer un peu l'histoire quand même de ce qui s'est passé dans les deux premiers épisodes. Si vous avez envie, en tout cas, de savoir la suite, vous n'avez même pas besoin d'attendre, puisque déjà l'intégralité de la série est sur France.tv. Et ça, c'est quand même pas mal, surtout quand on est sur une série à suspense comme ça. Alors, la semaine dernière, pour rappel, on était en 2013. On avait un capitaine Gabriel Moscato, incarné par Odile Villemain, qui recherchait sa fille disparue, qui s'endort dans une chambre d'hôtel et qui va s'y réveiller 12 ans plus tard. Avec une amnésie, il va falloir comprendre ce qui s'est passé, surtout qu'avec Solène, on s'aperçoit qu'elles étaient fâchées depuis 7 ans. Pourquoi, comment? Il y a plein de mystères qui vont être levés au fur et à mesure de ces 6 épisodes.
Oui, exactement, c'est ça. Ça veut dire que Gabriel et Solène étaient très amis en 2013. Elles travaillaient ensemble. Moi, je suis commandante de police. Donc, Gabriel est capitaine. Et donc, nous, si vous voulez, notre relation, c'est qu'on est à la fois, donc, collègues, on va dire, même si je suis sa supérieure, et amis. Et en 2013, évidemment, je suis là pour les battus, pour retrouver sa fille. Gabriel s'endort dans une chambre d'hôtel, vous venez de le dire, et se réveille 12 ans plus tard, victime d'une amnésie. Et dans son amnésie, donc elle a oublié des pans entiers de sa vie, de ses recherches, mais elle a oublié aussi que nous, on était fâchés.
Elle va revenir comme si de rien n'était, évidemment, en 2025.
C'est comme si de rien n'était, et moi j'ai dû, en tant que commandant, parce qu'en 2025, je suis à la retraite, mais en tous les cas, à l'époque, j'ai dû prendre des décisions assez lourdes la concernant, parce que je l'ai vu partir à la dérive. Gabriel est alcoolique, Gabriel est une femme blessée, meurtrie.
On voit elle y a laissé son couple.
Elle y a laissé son couple. La relation aussi avec sa mère est pas brillante. Donc avec ses amis, elle a fait le vide. Enfin voilà, c'est une femme qui est scellée, qui a continué l'enquête, si vous voulez, seule. Mais c'est ça, et on comprend dans les troisième et quatrième épisodes que elle a une amnésie, bien sûr, mais en fait elle revisite sa vie, quoi. C'est comme si elle faisait une enquête sur l'enquête. Donc c'est quelque chose, c'est passionnant, ça joue dans plusieurs registres. Et puis nous, il va y avoir aussi cette idée de est-ce que j'ai envie de l'aider alors qu'on a été fâchés pendant 7 ans. C'est ça le truc.
Et est-ce qu'on est prêt à mettre de côté, malgré cette amnésie, ce qui lui arrive aujourd'hui, qui peut être peut-être suite à un choc post-traumatique, oui, qui peut être suite à plein de choses, et c'est ce qu'on va découvrir effectivement dans l'histoire.
Voilà, mais c'est le truc, et c'est vraiment l'idée. C'est comme dans la vie, est-ce qu'on, alors on est fâché pendant 7 ans, il y a eu des éléments très graves, en même temps cette femme est blessée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pardonne? Est-ce qu'on tend la main? Mon personnage, moi ce que j'ai aimé, c'est que c'est quelqu'un d'assez terrien. Enfin bon, moi Gabrielle, elle me touche à plein d'endroits, en tant que femme, en tant que mère, en tant sa recherche effrénée. Enfin, je pense qu'on peut pas rester insensible à quelqu'un qui se bat et qui se bat pour la vérité, en fait. Et donc, je décide, voilà, de lui apporter mon aide en mettant des limites aussi, parce qu'il faut en mettre avec. Mais ça veut dire que je décide d'embrasser sa cause, parce qu'on peut pas rester comme ça silencieux par rapport à un drame pareil.
Oui, c'est vrai que il était deux fois nous percute dès le départ, hein, parce que vraiment on se demande ce qui a bien pu se passer, on se demande effectivement qu'est-ce qui s'est passé pour sa fille aussi. On peut comprendre aussi que cette femme soit meurtrie avec tout ce qui lui est arrivé. Et il est vrai, en plus Odile, elle est assez incroyable dans ce rôle encore une fois. Et il va falloir effectivement qu'elle comprenne ce qui s'est passé pendant ces 13 ans pour pouvoir avancer, parce que c'est une quête sur soi du passé, mais pour pouvoir aussi avancer dans l'avenir.
C'est ça, et tourner, enfin, c'est comment on peut dire tourner la page quand on a son enfant qui a disparu. Mais après, c'est ça, elle a un instinct fort, elle a quelque chose qui lui dit que c'est peut-être pas foutu, c'est peut-être pas perdu. Elle a raison d'être pugnace, d'être tenace, et je pense qu'elle emmène, c'est ça, autour d'elle, les gens qui au début pouvaient se dire, oh là là, bon, il y a l'amnésie, il y a l'alcoolisme, il y a tout ça, mais il y a un fond de sincérité qui nous ébranle et qui fait que, ouais, on a envie d'être main dans la main avec elle.
Béatrice, est-ce que t'as lu le livre? Parce que c'est un peu la mode en ce moment, justement, des adaptations de romans. Et il y a deux écoles. Quand on est comédien et qu'on va devoir jouer un rôle qui existe dans un livre, c'est soit de lire le livre, ou alors au contraire, pour pouvoir s'en sortir, d'arriver vierge et de s'approprier le rôle de Solène.
Non, alors j'ai pas lu le livre, parce que d'abord, enfin, je vais être très très honnête, je lis pas beaucoup de polars, parce que ça me fait trop peur. Mais en tous les cas, ça m'a donné envie, donc ça c'est bien. Mais parce qu'en plus je lis plutôt le soir, donc en fait non, je me fais trop de films déjà, j'ai déjà trop de choses dans ma tête, donc voilà. Mais là, ça m'a plu, et puis c'est surtout que là, comme c'est quand même une relecture, il y avait déjà trop d'éléments qui changeaient. Alors là, moi, je me suis dit ça va m'embrouiller. Après, j'ai un gros problème, moi, avec la temporalité déjà. Quand on me dit qu'il va y avoir deux époques, moi j'ai toujours un problème dans l'espace et le temps. Donc là, je me suis dit non, je vais lire le scénario, je vais construire le personnage. Alors il était déjà très bien écrit, mais moi après mon travail c'est que je tapisse et je lui mets des éléments que d'ailleurs personne ne le sait, je le dis même pas au réalisateur, mais en tous les cas je crée une vie au personnage et c'est ce que j'adore quand je me lance dans un projet comme celui-là ou comme dans d'autres. Je m'imagine sa vie, quoi, ce qu'elle mange, ce qu'elle écoute comme musique, quelle est sa, là je voyais elle vit sur une péniche, enfin il y avait un univers déjà qui était fort et après moi mon petit business c'est de tapisser ce personnage pour lui donner aussi un petit sous-texte qu'on voit ou qu'on voit pas, c'est pas grave, mais en tous les cas moi j'arrive comme ça pour jouer, je sais mieux qui je suis.
On continue à découvrir Il était deux fois si vous voulez voir comment justement Béatrice a tapissé Solène. C'est l'occasion de le découvrir et puis on vous rappelle que vous avez déjà la suite sur France.tv, la série est déjà en intégralité. Merci Béatrice en tout cas d'être passée nous voir pour cette série. À bientôt.
À bientôt. Merci.
Votre cerveau a effacé tout un pan de votre vie.
Quelque part dans ma tête là, j'ai peut-être la voix de l'endroit où se trouve ma fille. J'ai appris que ma fille faisait du chantage sexuel, qu'elle sortait avec un dealer, qu'elle cherchait à s'enfuir à cause de moi.
Caleb restera dans nos cœurs. Il nous a laissé un ultime manuscrit.
Tu pensais qu'ils ne sont écrémés avec tes analyses toxico à la con, là ?
Il y a des traces de kétamine dans les urines.
Les gens qui prennent de la drogue sans que personne le sache, on en croise tous les jours.
Je veux juste savoir comment un type tout seul a pu tuer toutes ses filles et faire accuser des innocents à sa place.
T'avais raison depuis le début.
C'est le même tueur depuis 25 ans.
On parle de prostitution de mineurs, d'extorsion.
Il y en a eu 4.
Dans le sac de Julie, il y avait 2000 euros.
Bah, ça veut dire qu'il y a un mec en plus. Je te dis que c'est sûrement le cinquième homme. Ça peut pas être lui. Tu sais qui c'est.
Allez, ne bougez pas, on termine l'émission avec Jean-Paul Salomé et Reda Kateb dans un instant. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com. Sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Fermé, t'as touché le fond, entendu.
La machine à penser est cassée.
C'est l'histoire des enfants.
Les restos du cœur serré,
les hirondelles bénévoles,
mais jamais assez.
Si tu crois qu'on a trop rêvé,
ou si tu crois qu'on a trop pleuré,
si tu crois qu'on a trop rêvé,
si tu crois qu'on a tout brillé.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, en ce début d'année, eh bien notre coup de cœur cinéma est consacré à l'affaire Bojarski, nouveau film de Jean-Paul Salomé qui nous rejoint et qu'on retrouve avec plaisir après la daronne et la syndicaliste. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Il était sur un fil l'année dernière, c'est le cas de le dire. Avec nous, Reda Kateb qui nous rejoint également. Bonjour Reda.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous tous les deux. C'est un film qu'on a pu voir, nous, en avant-première au Festival du film de Sarlat. Et quel film ! On est scotché pendant 2 heures à notre siège en découvrant ce destin hors du commun, celui de Jan Bojarski, un jeune ingénieur polonais qui se réfugie en France pendant la guerre. Il va vivre de falsification de papiers pendant l'occupation allemande jusqu'au moment où, après la guerre, il va se mettre à falsifier les billets. Ça va devenir le plus grand faussaire de l'histoire de la monnaie en France. Jean-Paul, comment l'idée est venue, en tout cas, de consacrer un film à cette affaire Bojarski ?
C'est un producteur qui m'a parlé de ce sujet et qui avait commencé à essayer de travailler dessus, qui avait fait un texte qui ne m'a pas convaincu, mais en tout cas dont l'idée, et l'idée vraie, m'a obligé à me reporter à... Je me suis replongé dans Internet, dans la documentation de tout ce que je pouvais trouver sur cet homme, et en me replongeant dans la vraie histoire de cet homme, j'ai vraiment vu ce qui m'intéressait et les racines de cette histoire, de ce portrait intime d'un artiste, d'un faussaire, de quelqu'un qui n'était pas du tout un gangster dans la France de l'après-guerre. C'est toutes ces choses-là qui m'ont donné envie avec cette histoire qui avait une force romanesque quand même incroyable. Et tout de suite, je me suis dit, il y a un film.
Ah oui, un film, et puis un beau film en tout cas. Reda, qu'est-ce qui vous a plu en premier dans l'incarnation de et dans ce personnage ?
Oh bah, ça a été la découverte par Jean-Paul du coup de cette histoire que j'ignorais, ce personnage qui est vraiment à la fois haut en couleur et en même temps très secret, très taiseux. Moi j'aime beaucoup jouer dans l'économie, j'aime beaucoup ne pas forcément jouer dans les dialogues, mais jouer dans des choses de regard, de gestes, de choses peut-être entre les lignes. Et j'ai très vite senti qu'avec ce personnage, il y avait cette possibilité. J'ai senti que dans le geste de Jean-Paul aussi, de me proposer d'écrire ce scénario en pensant à moi pour ce rôle, bah, je l'ai vraiment reçu comme un cadeau aussi. C'est quelque chose de vraiment très rare et qu'on allait aussi ensemble pouvoir justement donner vie avec beaucoup de liberté à ce personnage, puisqu'au contraire d'un biopic, on n'avait pas à suivre un cahier des charges de sa vraie vie que tout le monde connaîtrait, mais avec quand même l'envie d'être fidèle à cet homme que j'aime beaucoup dans son... Pour moi, c'est un artiste vrai. Pour le coup, il n'y a rien de faux chez lui, même s'il faisait des faux billets.
On ressent même, nous, en tant que spectateurs, une certaine fascination, du coup, pour ce personnage. C'est ça qui est fort.
Bah, c'est-à-dire que oui, je pense que le propre d'un cinéaste, c'est d'essayer de filmer des choses qui le fascinent et essayer de faire partager cette fascination au public. Moi, oui, j'ai été fasciné par cet homme, j'ai été fasciné par son itinéraire, par sa solitude, par son envie de un peu folle, d'avoir d'exercer sa passion, de la vivre, d'avoir en même temps une famille, d'avoir des enfants, sur la durée, sur une histoire d'amour qui s'étale comme ça sur des années et des années. Enfin, il y avait beaucoup d'enjeux que moi, dans ma vie d'aujourd'hui, je comprends, que j'avais envie d'exprimer au cinéma. Et c'est arrivé à un moment où je me sentais capable de raconter tout ça. Je pense qu'il y a 10 ans, je serais passé à côté du sujet, où j'aurais peut-être pas eu envie, où j'aurais fait différemment. C'était le bon moment. J'ai l'impression qu'un peu, c'est comme si le sujet m'avait trouvé au moment où j'avais envie de raconter tout ça. Et quand j'ai vu que tout ça était possible dans ce sujet-là, en faisant le portrait d'un homme, bah, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je le fasse et que j'y aille, quoi. Alors que c'est pas du tout mon histoire personnelle, mais j'ai l'impression que c'est un des films où je me raconte le plus finalement à travers quelqu'un d'autre, ce qui est assez intéressant même dans une démarche artistique en fait.
Alors, on suit son destin sur plusieurs années. Au casting, on y retrouve Sarah Giraudeau qui joue la femme de Yann, qui je trouve offre au rôle une grande douceur et à la fois une grande fragilité aussi dans le rôle. Bastien Bouillon, incroyable, Bastien, toujours incroyable aussi, dans le rôle de l'inspecteur Mattei qui l'a coursé pendant quasiment toute sa carrière pour le coincer. Ça, c'est absolument dingue. Et puis Pierre Lottin aussi, l'acolyte de Yann, qu'on retrouve dans ce film de Jan Bojarski. C'est vrai que le casting autour est assez fou, quoi.
Ah oui, et puis, enfin, plus que autour, quoi. Et ça, c'est vraiment Ça a été une très grande chance de faire ce film avec ses partenaires qui avaient tous quelque chose à défendre au-delà d'un second rôle qui serait un rôle qui servirait uniquement la narration ou qui servirait uniquement le personnage principal en termes d'éclairage sur le personnage principal. Je pense qu'au contraire, des acteurs de cette dimension étaient attirés par ces rôles-là parce qu'il y avait vraiment quelque chose aussi. J'entendais Jean-Paul en parler tout à l'heure. C'est voilà un cinéma français qui peut-être s'intéresse aujourd'hui un peu moins à ses seconds rôles que dans ces années-là, dans les années 50 notamment. C'était l'envie de faire à la fois un film moderne d'aujourd'hui, mais avec des choses qu'on aime des films de ces années-là. Voilà.
Alors, il faut dire que Bojarski était un inventeur aussi, mais qu'il pouvait pas déposer ses brevets lui-même tant qu'il n'avait pas ses papiers. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a titillé quand même pendant tout le film, c'est toutes ces petites inventions, le déobille, la dosette de café. Est-ce que c'est un peu une référence au monde actuel ou c'est des références qui ont vraiment existé et qu'il a été un peu l'instigateur de ce qu'on connaît aujourd'hui dans le monde moderne?
Mais il a été l'instigateur. Il y en a une, je vous dirai pas laquelle que j'ai inventée, mais toutes les autres, les 9/10 de ce qu'on voit, on a eu les brevets, on a vu les photos et on a recréé tel qu'il les avait inventés. Non, mais c'était un
artiste.
C'était un inventeur hors pair. Il ne savait pas se vendre, comme il y a des peintres qui sont des géniaux et qui ne savent pas se vendre, ou des écrivains, ou même des cinéastes des fois. Mais il avait cette folie créatrice d'inventeur très très fort. Et il a inventé tout ça. On a eu accès au brevet. Donc non, je pourrais dire non, je suis un très bon scénariste, mais j'espère l'être aussi un peu. Mais en tout cas, là, on a pris la réalité.
C'est inventeur et précurseur, je dirais même. Vraiment, il est même défini dans le film par moments comme un artiste.
Mais j'ai toujours vu ce film comme le portrait d'un artiste. Et j'ai toujours pensé que c'est ce qu'on racontait ensemble avec ce film, du début à la fin, vraiment, dans son rapport à son travail, dans son dévouement, dans les risques qu'il prend pour son travail, dans son besoin de reconnaissance, que les autres puissent avoir conscience aussi de ce qu'il peut faire et de ce qu'il sait faire. Voilà, il y a tellement d'angles d'accès vers ce personnage, mais celui de l'artiste est toujours au centre pour moi. Et encore aujourd'hui, quand je pense à ce film, pour moi, c'est un portrait d'artiste.
On a passé beaucoup de temps à filmer ça, en fait. Moi, c'était, même en production, c'était une lutte avec, je disais toujours, je préfère tourner plus vite certaines scènes d'action, mais laissez-moi du temps, je veux du temps pour filmer les scènes où on le voit seul faire des billets. Et on le faisait en équipe réduite parce qu'il n'y avait pas de raison d'être toute l'équipe pour faire ça, mais je sais qu'on a eu des journées tranquilles où on avait le temps de faire tous ces gestes précis qui demandent du temps et qui lui demandaient du temps, de la concentration. Et voilà, et c'était quasiment du documentaire. Mais moi, j'assumais ça, en tout cas. Je l'assumais en me disant, on verra après ce qu'on en fait au montage. Mais en tout cas, je veux avoir ces images-là.
On va écouter la bande-annonce, l'affaire Bojarski. C'est donc mercredi au cinéma. On ne le rate pas. Reda Kateb, Sarah Giraudeau, Bastien Bouillon, Pierre Lotin et plein d'autres de ces nouveaux films de Jean-Paul Salomé. Au cinéma, on revient tout de suite après avec vous deux. À tout de suite.
Go! Go!
Commissaire, un mot sur le braquage du fourgon de la Banque de France?
Je ferai tout pour envoyer les coupables en prison.
Pas la peine de revenir lundi. Il y a des Français qui m'ont demandé, ils passent en priorité.
Liberté, égalité, fraternité.
On ne pourra pas vous aider éternellement.
Je peux te trouver du travail dans mon entreprise? Ou livraison, ça te dirait?
Papa, Yann est ingénieur.
Comment tu t'appelles?
Yann Bojarski.
Il paraît que t'as du talent, Yann.
5 ans si tu te fais choper pour des faux papiers, 30 pour des faux billets.
Je crois que je n'en ai jamais vu d'aussi réussi.
Bouge pas !
J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je m'installe à mon compte.
À la vôtre, monsieur Bojarski.
Oui, je vous préviens, vous allez découvrir, c'est sûr, en tout cas un destin absolument hors du commun grâce à Jean-Paul Salomé. On va en savoir beaucoup plus en tout cas sur cet artiste. Il fallait quand même un comédien avec un charisme assez dingue pour interpréter justement, on le disait il y a quelques instants, cet artiste Reda. Et c'est vrai que ce charisme, Reda n'en manque pas quand même.
Ah, et vous me tendez le micro juste après ça? Ah bah, je vous le confirme. Hein. Je vais pas vous dire le contraire. Non, mais que dire? Bah merci déjà. Et oui, le charisme de ce personnage, je crois que non, c'est une question de vérité peut-être. Enfin, que moi, ça m'a évoqué quelque chose de personnel. Je saurais pas après rentrer plus dans le détail, mais pour pouvoir interpréter un rôle et faire décoller cette interprétation, qu'il se passe quelque chose, il faut quand même avoir quelque chose à dire à soi aussi à travers ce rôle-là. Et j'ai eu l'impression de le découvrir à travers le film. En tout cas, à aucun moment la question de la légitimité, du fait d'être légitime, moi, Reda, pour jouer un immigré polonais, inventeur génial qui est devenu le faussaire de la fausse monnaie. Ça m'a paru évident. Mais peut-être aussi parce que Jean-Paul écrivait en pensant à moi, donc je me sentais aussi légitime de ça. C'est vrai que ce cadeau, alors voilà, c'est un mot de dire c'est un cadeau qu'on écrive pour vous, mais c'est un cadeau aussi dans le sens de cette confiance-là, de cette légitimité-là qui vous est donnée dans le rôle, et du temps de la rêverie avant le temps de l'action. Parce qu'un tournage, c'est très performatif pour un acteur. Tous les jours, il faut produire. Et puis, tous les jours, ça reste. Et on peut jamais refaire. C'est pour ça que je chéris tellement quand c'est possible, d'avoir du temps en amont pour rêver à un rôle. Et quand un rôle, en plus, permet tellement de laisser aller son imaginaire et de décoller.
Jean-Paul, moi, il y a une scène qui m'a marqué. Alors, je vais pas trop en dire parce que je veux absolument pas, il faut surtout pas le dévoiler aux spectateurs, mais on va dire la première scène où il y a ce face-à-face entre Matéi et Bojarski, elle a vraiment existé?
Non, elle a pas existé, mais moi, elle a existé tout de suite dans mon envie de faire le film et...
Ça offre quelque chose de romanesque en plus, c'est vraiment hyper bien placé.
Oui, mais en fait, cette scène, elle vient parce qu'on a eu accès à un enregistrement, à un interview de la vraie femme du vrai commissaire, qui s'appelait Benamou dans la réalité. Et cette femme, donc qui n'était pas du tout dans la police, qui était comme dans le film une grande bourgeoise, etc., etc., mais elle a vécu quand même toute sa vie. C'était la troisième femme du commissaire, de ce commissaire. Elle a vécu toute la fin de sa vie avec lui, et elle a vécu surtout pendant toute cette affaire Bojarski. Et donc, elle a parlé de ça comme si Bojarski était en fait le troisième élément du couple. Parce que il parlait tout le temps, son mari parlait tout le temps de Bojarski. Il l'a quand même traqué pendant 15 ans. Donc pendant 15 ans, cette femme a vu son mari qui se prenait la tête, qui ratait, ce type qui lui filait toujours entre les doigts. Et elle disait, mais j'en avais marre de ce Bojarski, ne parlait que de ça, et c'était une obsession. Et c'est vrai que finalement, on disait toujours, il y a deux couples dans le film, il y a le couple de Bojarski et de sa femme, et il y a le couple de Bojarski et du commissaire qui le traque. Et à un moment donné, en tant que spectateur, je me suis dit, mais les spectateurs auront envie qu'à un moment donné, ces deux personnages se rencontrent vraiment. Donc oui, on a inventé cette scène, parce que avec Bastien Darret, le scénariste, fort de ce qu'on a entendu du témoignage de cette femme, qui disait d'ailleurs, en fait c'est ça, je disais, elle racontait que son mari avait une réelle admiration pour ce faussaire qu'il traquait. Ce qui est souvent le cas quand quelqu'un traque un personnage comme ça pendant 15 ans, c'est pas anodin, ça fait partie intégrante de sa vie, il y a une vraie séduction même. Et on s'est dit, donnons corps à ça. Voilà, faisons exister ce qu'il aurait rêvé de vivre. Cette rencontre qu'il a eue à un moment donné plus tard, et ça on va pas raconter comment, mais à ce moment-là, on avait envie que ça existe.
Reda, on terminera justement par votre scène préférée, peut-être ? Est-ce qu'il y a une scène particulière qui vous a marqué ? Est-ce que c'est peut-être celle-là d'ailleurs ?
Oui, c'est une scène, la scène dont parle Jean-Paul, c'est une scène vraiment à part dans le film, et c'est vrai que c'était vraiment un régal à jouer avec Bastien Bouillon aussi, parce que on avait des lignes parallèles. Du coup, sur le tournage, on se croisait à la cantine pendant la préparation parfois, mais sinon on tournait pas forcément les mêmes jours. Mais on était chacun en rapport avec l'autre et on faisait ce film ensemble totalement. Donc cet endroit-là qui tout d'un coup nous réunissait et nous permettait de jouer quelque chose de très en creux qui n'était pas dicté par un rythme d'action ou de choses extérieures, mais tout d'un coup les personnages dans une bulle constituée pour que le temps se suspende. C'est ce qu'on aime entre action et coupé. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime le plus, je crois, c'est cette chose du temps suspendu.
Et puis juste, il y avait aussi, ça s'est tourné vers la fin du film, les comédiens se sont nourris de tout le personnage, donc ils savaient tout là, on avait tout fait quasiment, et je pense que c'était important que ça vienne à la fin, parce que du coup tout pouvait être retranspiré entre eux, et c'était vraiment beau. Et puis il y avait ce désir de, pendant le tournage, d'attendre cette scène comme une espèce de cadeau à la fin, et de dire, ça va être la fin, mais il y a encore ce truc à faire qui est super important, et c'est de l'ordre du jeu, quoi.
Et après avoir tourné cette scène, puisqu'on avait passé des semaines dans un atelier à Villecresnes, dans un jardin de nuit et tout ça, tout d'un coup, ce petit bar d'hôtel s'est transformé en fiesta pour toute l'équipe de tournage. Jusqu'au lendemain matin, c'était une fin de semaine mémorable, qui a aussi provoqué un lundi matin différent, parce que faire la fête pour une équipe, c'est important, ça resserre les liens aussi.
Bon, en tout cas, Yann Bojarski a été condamné à 20 ans de réclusion. Il en a fait 14. Il est sorti en 1979 de prison. Il est décédé en 2003 à l'âge de 91 ans. C'est en tout cas ce qu'on peut appeler un destin hors du commun, dont vous allez pouvoir suivre une partie de vie dans le film de Jean-Paul Salomé qui s'appelle L'affaire Bojarski, qui sort mercredi au cinéma. Ne ratez pas non plus, parce que je l'adore, ce film sur un fil. Il vous est offert maintenant en DVD et VOD. C'est le film de Reda Kateb, évidemment, avec Aloïs Sauvage, qui est magnifique. Et qu'on vous conseille évidemment si vous ne l'avez pas vu au cinéma, c'est sa deuxième vie qui est en cours actuellement. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci beaucoup. Merci.
Règle numéro 1, ne pas écouler plus d'un billet par boutique.
Ça fera 300 francs. Il est tout neuf ce billet.
Règle numéro 2, rien d'ostentatoire.
Merci papa.
Règle numéro 3, la discrétion.
Bojarski, qu'est-ce que t'as fait ?
Contrôle d'identité. Au papier, s'il vous plaît. Ouvrez votre valise.
Je peux t'aider ?
Tu me caches quelque chose ?
Avec le mois dernier, on en a encore détecté plus de 2000.
Vous savez combien ça nous coûte ?
Tu joues à quoi, Suzanne ?
Je veux savoir avec qui je suis. T'as déjà perdu tes amis, tu veux aussi perdre tes enfants ? Dis-moi ce que tu fabriques vraiment ici.
À la Banque de France, ils sont sur le cul.
Vous n'étiez pas censé être infalsifiable.
Police !
Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais vous arrêter.
Quand j'en aurai assez, j'arrêterai de moi-même.
Non, vous n'arrêterez jamais, parce que vous ne faites pas ça pour l'argent.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain, on parlera des apprentis champions au ski avec Philippe Candelero et Louison qui seront nos invités. Nous aurons le plaisir de recevoir également la grande gagnante de l'Eurovision Junior, Lou Deleuze.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de pots gourmands, Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Chute, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.